Vous écoutez Radio Maïori Campus. Mille bulles sur Radio Maïori Campus avec Nitsa Cavalier.
Radio Maïori Campus, bonsoir. Nous sommes mercredi, nous sommes bien sûr à l'heure de votre émission 1000 bulles pour un deuxième numéro. En fait, tous ceux et celles qui n'ont pas pu écouter le premier numéro, ne vous inquiétez pas, toute l'intégralité de l'émission se trouve en podcast sur le site de la radio. C'est bien le www.maioricampus.com. Il y avait des bulles en abondance autour de l'ouvrage Amazonie, le chemin de l'espoir du premier numéro. On avait parlé bien sûr de l'Amazonie avec Jean-Marie Prévoto. Et ensuite, on a parlé de musique, de théâtre. Il y avait Patrick Alves, qui est un metteur en scène et comédien brésilien, qui était là pour nous parler du théâtre de l'Amazonie. Et aujourd'hui encore, je vous promets que vous serez inondés de bulles, chacune de leurs couleurs respectives. Une bulle, deux bulles, trois bulles. Dans chaque bulle, je glisserai un mot. Les bulles s'envoleront peut-être, les bulles s'éclateront peut-être, mais les mots resteront. Ouvrez bien vos oreilles et attrapez-les. Tout est pour vous. Je sais, vous écoutez, vous souriez, ce qui veut dire que vous avez compris. Alors, une petite pause musicale avant de continuer notre aventure.
Bien prouvé qui fait pour changer, quand j'ai compté mon petit volé, comme si ça pas de jambe existait. La honte, ça son mentalité, utilisé par audacier, même s'il connaît sa pas marcher. On y a tout bagage changé. Pas de pièces moun qui j'ai pété, ça fait nèg mandé enragé. L'employé vie mot chat barré, si ou campé ou dit c'est pas vrai, ou te guetan yo kat maqué. Messieurs kaplite yo, pour la vie fleurie, pour souffrance ka mourir. Pour ti moun yo ka joui bel demè, ka grandi woy, pi gagne sezi. N'a pas l'été toute la vie, quand toute vie est d'un pourri qui coin ses bons amis. Côté mon saillou, c'est danger, qui a l'école pour y apprendre à penser. Petit peuple, tout ça c'est pas vrai. Ambitieux, c'est pas envenimé, c'est bagaille pour nous surveiller, c'est nous bon pique et nous fixer. Ou même wap marcher à tête levée, c'est penser ramper, ça ramper, des eaux ou empoisonner. C'est pas n'importe qui qualité. Ou pas gué le choix pour sauver. C'est grand moyen pour employer. Mais c'est ta qualité pour la vie.
La rubrique connaissance.
Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, nous sommes bien sûr à l'heure de la rubrique connaissance. Aujourd'hui, il n'y aura que vous et moi. Pour les mots qui s'engendreront, pour cette parole importante que j'aurai à vous partager, pour l'avant-scène du présent, pour les vents d'éternité, pour cette vie, pour cette émission qui nous lie, qui que vous soyez, je vous suis bien plus proche qu'étranger. Ce sera vous et moi. Vous et moi, autour de l'ouvrage « Paroles des prolétaires », écrit par la militante française Orlette Laguier.
La rubrique Daron Daronne. La rubrique Daron Daronne.
La rubrique Daron Daronne. Cette rubrique me permet alors de vous présenter l'auteur de l'ouvrage, Orlette Laguier. Cette dernière est née à Paris d'un père ouvrier et d'une mère catholique. Elle grandit dans un HLM de la cité des Lilas, Seine-Saint-Denis. Dès l'âge de 16 ans, elle devient dactylo au Crédit Lyonnais où elle travaille toute sa vie comme secrétaire jusqu'en 2000. L'employé de banque s'engage en politique en 1960 et devient la porte-parole nationale du mouvement trotskiste Lutte ouvrière en 1973. Avec sa mythique devise « Travailleurs, travailleuses » et son franc-parler inimitable, elle défend un programme de défense des ouvriers et des autres catégories sociales populaires. La militante Orlette Laguier, dirigeante de la lutte ouvrière, fut plusieurs et fois candidate à la présidence de la République française. Elle a publié en 1974 « Moi, une militante » et en 1996, elle a publié son autobiographie politique « C'est toute ma vie ». En 1999, elle a publié « Paroles des prolétaires », l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, et en 2002, elle a publié « Mon communisme ».
La rubrique Balance.
Un dicton nous dit, quand on est plongé dans un livre, le monde autour n'existe plus. Par contre, moi, je vous dis aujourd'hui que quand je suis plongé dans un livre, je pense à vous. Je pense à tout ce qui pourrait être un élément de partage. Je pense à toutes les bulles qui peuvent tourner tout autour. Je vais donc partager ma lecture avec vous en sortant de la forme de l'ouvrage pour arriver jusqu'au fond. Sur la première de couverture, nous retrouvons le nom de l'auteur, Arlette Laguiller, le titre du livre, Paroles des prolétaires, et aussi il y a un sous-titre, Réponse des travailleurs eux-mêmes à ceux qui prétendent que la classe ouvrière n'existe plus. Entre le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage, nous voyons une illustration. L'image d'Arlette entourée de travailleurs. Et dans la quatrième de couverture, on trouve le résumé du livre et une brève biographie de l'auteur. L'ouvrage est sous le compte de la librairie Plon. Il s'agit d'un essai de 224 pages et 2 chapitres. Les nombreuses grandes idées de l'ouvrage. Dans l'introduction, Arlette fait appel aux faits et aux dires de chacun pour nous expliquer que la classe ouvrière existe réellement. Elle nous montre comment sa méthode a pu lui permettre de dialoguer avec certains ouvriers et qui ont raconté directement leurs expériences. Les grandes idées de l'ouvrage. Étant donné qu'il y a 2 chapitres dans l'ouvrage, donc chaque chapitre a une grande idée. Au premier chapitre, elle nous dit que les gens sont nés pour être ouvriers. Et puis elle nous explique, bien sûr. Elle commence par dire « Liberté, égalité, fraternité » inscrite dans tous les monuments publics français signifierait que chacun a dans la vie les mêmes chances de réussite sur le plan des études ou sur le plan professionnel. Par contre, il se passe autre chose. Il se passe le contraire de la réalité. Les enfants issus de familles ouvrières n'ont aucune chance de réussite pour leur vie que de finir dans des usines ou dans des factories ou dans d'autres endroits liés au travail, dédiés au travail. D'où l'idée qu'on est né pour être des ouvriers. Quand on est né dans la classe défavorisée, bien sûr. Pas d'autre possibilité d'avoir un autre sort. Et au deuxième chapitre, elle nous dit que les patrons n'engagent que des jeunes. Le plus souvent, les patrons n'embauchent que des jeunes. Et ces jeunes n'ont pas droit à une formation. Un simple discours du patron est nécessaire pour que le patron se dise que, OK, ce jeune est qualifié pour travailler. Au troisième chapitre, elle nous raconte la dégradation des conditions de travail. Les conditions de travail deviennent de plus en plus inhumaines. Un tableau bien éloigné de la réalité nous peint des entreprises où les conditions de travail seraient possibles. Au contraire, les ouvriers ont des tâches insoutenables, dangereuses. Plusieurs exemples de la chercheuse nous révèlent la situation des sous-traitances de ces travailleurs. Au chapitre 4, elle nous parle des femmes au travail. Elle nous décrit leurs conditions de travail, bien sûr. Le plus souvent, la classe ouvrière est constituée de jeunes femmes. Le plus souvent, ces jeunes femmes subissent une double exploitation. Ça nous renvoie directement à voir Clara Zetkin qui disait que la situation d'exploitation des femmes est double, surtout les femmes ouvrières. C'est pour cela qu'elle nous dit qu'il y a une lutte jumelle qui doit se faire. Et c'est une lutte non seulement pour la condition, l'épanouissement, l'émancipation des femmes, et aussi pour les femmes qui sont ouvrières et pour tous les ouvriers en général. Et puis, dans ce chapitre, Femmes au travail, Olette nous explique comment il existe des chefs masculins dans ces usines. Ces chefs-là sont des ouvriers, mais ils sont exploités par leur patron, mais eux, ils exploitent les femmes en retour. D'où la femme subit une double exploitation. Et puis, de toute façon, elle nous dit dans ce chapitre que les chefs féminins sont plus que rares. Donc, il n'existe presque pas de chefs féminins. Au chapitre 5, intitulé « Intérim, CDD et précarité », elle nous explique comment les ouvriers travaillent pour une durée indéterminée. Ils peuvent être destitués pour des causes banales. Les ouvriers sont carrément des intérimaires. Ils ont même pour l'année un salaire non rassuré. Les usines ont des autres grandes sociétés ont comme politique de justification une prime de précarité qu'elles osent très souvent ne pas payer à la fin de chaque contrat. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui arrive que les ouvriers pourraient se révolter, les patrons mettent une politique de prime, par exemple, si l'ouvrier se blesse. Et y a une histoire comme ça qui est racontée dans ce chapitre. Il y a une ouvrière qui s'est blessée et pour que le patron puisse garder ça à l'intérieur de l'usine, à l'intérieur de l'entreprise, le patron promet une prime à la personne qui a été blessée et pour cautionner tous ces malheurs. Et du coup, la personne dans le besoin vraiment d'avoir ce prime et cette prime et ne dit rien, souffre en silence. Et à la fin, le patron ose ne pas payer et cette prime promis et lors de cette incidence. Au chapitre 6, intitulé « Grande surface, brève carrière », on parle de grande surface pour désigner les grands consommateurs de main-d'œuvre intérimaire. Le plus souvent, ces consommateurs visent des jeunes, surtout dans les zones de réserve et de mines. La vie de ces gens est toujours en danger à cause de la température des lieux. Et la durée de travail arrive même à dépasser 22 heures. Imaginez-vous dans une chaleur énorme et que ces gens-là travaillent jusqu'à 22 heures. Ces gens-là, on peut dire qu'ils n'ont pas de carrière. Au chapitre 7, intitulé « Travail en équipe et flexibilité » et les deux mamelles et représentent les deux mamelles du profit. L'auteur nous montre comment le profit représente la seule préoccupation des patrons. Pour augmenter leur profit, ils appliquent une recette simple qui est faire produire plus, si possible avoir le moins d'ouvriers tout en investissant le moins possible dans le matériel. Au chapitre 8, l'auteur nous démontre comment le travail n'est pas la santé. Bien souvent, on retrouve dans ces grandes propriétés des textes réglementaires à respecter dans le travail, dans l'utilisation de certains nombres de produits ainsi que des contrôles médicaux réguliers. Cependant, les textes réglementaires sont une chose et la réalité en est une autre. Parce que quand nous écoutons les confidences des travailleurs, quand nous lisons bien sûr, parce que c'est retranscrit par Alette, des travailleurs de leurs mauvaises conditions de travail, ce n'est pas leur santé, c'est tout autre chose. Ces travailleurs évoluent dans des conditions crasseuses. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de soins de santé et nous savons comment ou bien combien ces travails sont difficiles, sont exposants ou bien sont dangereux tout court. Au chapitre 9, les usines qui multiplient et qui tuent. Intitule comment l'auteur retranscrit et le nombre de personnes ou bien fait le parallèle entre les personnes qui sont victimes et le nombre d'usines qui sont là, qui existent pour gagner, pour faire du profit. Elle nous dit, la technique en effet a fait des progrès considérable. Par contre, ces progrès restent une illusion avec des gens qui meurent presque chaque jour, surtout dans les usines de l'industrie automobile. Au chapitre 10, les travailleurs du rail. L'auteur nous parle des travailleurs du rail, des ouvriers qui travaillent dans les chantiers pour différentes voies. Et ce sont ces ouvriers-là qui sont le plus souvent exposés aux accidents. Ils ne pouvaient prendre le moindre souffle, commettre la moindre erreur sous peine de renvoi. Non seulement leurs conditions de travail sont dures ils sont exposés au danger, mais ils n'ont pas droit à l'erreur, donc ils devaient subir leur sort si ils peuvent mourir, mais ils ne peuvent pas causer un dégât. Donc, s'ils vont se blesser, ils savent qu'ils doivent se contenter d'être blessés, mais d'éviter d'endommager un système ou autre, ou de ne pas finir leur travail. Oh. Au chapitre 11, Alette nous montre que comment l'hôpital est un danger. Le patronat, nous dit-elle, a toujours tendance à se préoccuper de leurs profits. Aussi, depuis que l'économie capitaliste est entrée dans une phase de stagnation, l'État a toujours fait choix en faveur des intérêts d'une minorité. De ce fait, il ne dispose pas des services publics pour au moins assurer une bonne condition de vie pour les travailleurs. Ce que les patrons ne font pas non plus. Les dépenses de santé représentent un encombrement d'après les dirigeants politiques français. Au chapitre 12, qui est le dernier chapitre, Alette nous prend comme exemple une grande industrie, Reynolds-Fines. Elle nous dit, les grandes entreprises reflètent aussi de nombreux problèmes, voire pires. Des camarades qui travaillent à Reynolds-Fines l'affirment quand ils parlent de leurs conditions de travail. Chers auditeurs et auditrices, c'était bien la rubrique Balance. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Credo.
lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie, pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous en constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sous le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert.
La rubrique Credo.
Chers auditeurs, auditrices, c'est bien la rubrique Credo. La thématique de recherche de l'auteur est, nous pousse ou me pousse à émettre plusieurs pensées. Une pensée qui découlera bien sûr de cette recherche, qui n'est autre que l'existence de la classe ouvrière. Nous savons bien que dans le monde entier, depuis bien des temps, cette classe a souvent laissé leurs complaintes pour que les gens concernés, les bourgeois, les patrons, l'État, et considèrent leur situation. Cette situation existe bien sûr en France, la France d'Arlette et la Guyée, en Angleterre, aux États-Unis, en Haïti. Et je peux dire que la problématique d'Arlette est encore de vigueur de nos jours. Elle veut d'ailleurs faire le lien dans son livre entre la sanglante réalité des travailleurs et l'illusion du bonheur que reflètent les grands bourgeois pour conserver le système, à savoir le système capitaliste. Et la question serait, est-il possible de dire que la majorité de la population française, donc elle parle de la population française, soit la classe ouvrière qui travaille dans des conditions inhumaines et qui assure la production pour les usines, les factories, les entreprises n'existent pas, comme veulent le faire savoir des gens qui bien sûr trouvent leur aise, leur profit de cette situation alarmante. À travers cet ouvrage, nous voyons donc que l'être la Guyée a pour principale préoccupation la situation de la classe ouvrière. Tout au cours du livre, elle prend le soin de relater des faits montrant non seulement l'atrocité dans les lieux de travail, mais aussi la bonne raison de considérer cette classe prolétaire comme existante. Elle nous dit que la première chose que les patrons ne devraient pas faire, c'est de mettre cette classe exploitée, opprimée, pressurée sous le même toit. Ce qui veut dire que ces personnes-là partagent les mêmes situations, les mêmes préoccupations, et lorsque ces personnes-là se rendront compte que sans elles, les patrons n'existent pas, sans elles, il n'y a pas d'usine, sans elles, il n'y a pas de factory, il n'y a pas d'entreprise, donc elles se soulèveront, elles vont dire non, on ne peut pas accepter ces conditions, et du coup, les patrons n'existeront plus. Donc du coup, il faut attendre ce moment, parce que ce moment arrivera un jour. C'est d'ailleurs ce que nous dit Alette Laguier. Un jour, ces gens-là qui sont exploités, pressurés, opprimés, diront non. L'auteur soumet des alternatives démontrant que l'avenir appartient à la classe ouvrière. Alette manifeste ses nombreuses préoccupations et sur la classe ouvrière et leurs conditions de vie infrahumaines. Elle prend le soin de présenter les partis politiques français tout en mettant l'accent sur quelques militants, militantes qui s'adonnent à la lutte, bien sûr. Parce que, de toute façon, s'il n'y avait pas ces gens-là, s'il n'y avait pas des personnes qui ont osé dire non à cette situation, peut-être qu'il y a des gens qui vivent encore, qui ne seront plus là, ou bien il y a des petites améliorations, je dis petites parce que c'est vraiment une illusion. Si par exemple, je prends le cas d'Haïti, où les ouvriers et ouvrières ont l'habitude d'organiser des marches pour réclamer la montée de leur salaire minimum, mais lorsque nous considérons que à chaque fois les autorités étatiques montent et d'un petit pourcentage le prix, et plus tard la vie devient de plus en plus chère, donc c'est comme s'il n'y avait pas une montée de leur salaire minimum et leur situation devient de plus en plus dégradante. Donc c'est vraiment une illusion, mais il y a quand même, on doit souligner qu'il y a quand même des gens qui disent non, qui luttent pour que leurs conditions de vie s'améliorent. Donc du coup, on peut rester sur ce fait et conclure que l'avenir appartient à la classe ouvrière. Moi, de mon côté, je pense être convaincue de l'existence du prolétariat. Les importantes lignes d'Arlette consacrées à cette catégorie de personnes, souvent mises à l'écart, représentent un moyen de prise de conscience. L'image des témoignages engendra de l'effet sur ses grands patrons et son chien de garde, qui est l'État, si j'ose reprendre les dires de cette femme courageuse, Alette Laguier. Il est important que de plus en plus de gens consacrent quelques heures pour vivre avec Alette, ne serait-ce qu'un instant, le déclin et les conditions permanentes de misère des prolétaires. Ainsi, ils verront la nécessité d'agir contre ce système qui ravage la totalité du monde et de s'engager pour un projet humanitaire. C'est maintenant l'heure de s'évader. C'est la rubrique évasion. C'est une rubrique qui consiste à sortir en partie de l'ouvrage, du contenu de l'ouvrage et de s'envoler vers d'autres créations. Pour ce deuxième numéro, je vous réserve une playlist forte et spéciale contenant 4 morceaux où chacun d'entre eux défendra la cause des ouvriers, des prolétaires ou la cause des masses défavorisées à leur façon. Et dans un second moment, je vais vous présenter le texte de Jacques Prévert et vous allez découvrir bientôt le titre. Mais avant de passer à la playlist, avant de diffuser les mélodies, il y a un poème intitulé « Évasion » écrit par Pauline Perrette, publié en 2006, que je vais vous lire. C'est comme un cadeau pour la rubrique, mais par-dessus tout, un cadeau pour vous, chers auditeurs, auditrices, qui auditionnez l'émission Mille Bulles. Je m'évade chaque nuit, loin du tumulte du jour. Écrire est ma façon à moi d'aller et venir au gré du vent et des envies. Toujours sentir quelque chose m'envahir de mélodie et d'amour. Je danse aussi devant la lune, je lui adresse mes bons mots. Je lui adresse tous mes bons mots. Mon ciel qui brille et va tout de go vers l'imaginaire pamplelune. Oh oui, si je souris et m'émeut devant de jolies phrases, c'est que je comprends tout des sensations, que j'ai l'âme ouverte à ma passion, donnant à mes espoirs des couleurs, une base. M'évader par la poésie, même quand j'ai de la peine, m'aide à évacuer et me renforce. Je vous dis sans tricher tout ce que cela m'apporte et vous avoue être guidé par la vie que je mène. Une vie pleine de bonté, de surprises et d'été. Fleurir 10 000 fois, c'est toujours vivre et demeurer fier de donner à survivre aux personnes n'ayant plus de force pour avancer. C'est ma liberté, mon besoin essentiel de toujours me réveiller après une bonne nuit. Vidée de tout désespoir et de blessures même partielles, j'aime m'offrir le luxe par l'envie. De dire et de penser à ma guise, sans besoin de me maquiller comme pour cacher sa personne. Je ne peux me déguiser. Être libre, c'est ne rien cacher. C'est clair, c'est net, défendre ses idées, même si elles ne sont pas toujours faciles à défendre. Elles sont toutes bonnes à méditer. Alors, la première musique, conclure la playlist que je vous propose pour la rubrique évasion, eh bien, la vie de Kéber Bastien.
Combien coup de pique ou pour jouer la vie? Combien mots solables qui pour frire? Combien coup de sentine dans la rue? Pour la vie dit, mais la vini. Pagé la vie dans factory, ni camper devant des GI. Pagé la vie en bas la ville. Pagé la vie nan pran bateau, l'eau salée pas bon pour crapaud, malgré c'est un gros défaut. La vie a mal été. Pagé la vie nan fait taxi, comme gaz compte pour faire figurti. Pagé la vie nan joué musique, son vieux métier démagogie. Pagé la vie la caille matin, malheureux pas en migrant fond, comme il levé ses calvaires jambes. Chita sous tête mi abgade, la vie passe nan vite filmé, pendant ce temps pas qu'à manger. La vie a préjugé.
Alors, Kéber Bastien est un compatriote, un chanteur engagé haïtien qui utilise sa musique comme arme de combat. La vie est un morceau qui décrit fidèlement la réalité de la société haïtienne. Il présente l'atrocité que vit ce peuple depuis des années déjà. Publié depuis 2015, ce morceau reste de vigueur jusqu'en 2019. Et nous savons que de nos jours, la situation en Haïti s'aggrave. La misère devient le bonjour de tout un chacun. Malheureusement, les concernés, nos autorités ne font rien pour changer la situation. Ils préfèrent fermer les yeux sur tout ce qui traverse et que traverse ce peuple. La vie ne représente rien à leurs yeux. Mais la vie aussi de Kéber Bastien nous montre aussi comment ce peuple, combien résistant, tient même à l'impossible. C'est un peuple qui cherche toujours à vivre, à évoluer dans la situation, bien que misérable, bien qu'atroce. Et nous allons après cette musique de Kéber Bastien auditionner une deuxième musique. C'est Les Bourgeois de Jacques Brel.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire, danser comme un vicaire. Et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui reste le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires, je sortais de l'hôtel des trois ans. On leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi, moi, moi qui suis resté plus fier.
Les bourgeois de Jacques Brel. Ah, c'est une musique qui, comme tant d'autres, remet en question la bourgeoisie. Jacques Brel est une grande figure de la musique française. Sa musique a marqué des générations et aujourd'hui encore continue à marquer des générations. D'ailleurs, il y a une pléiade d'artistes, soit 13, composée, je crois, de Slimane, Marianne, Claudio Capeo, Michel Jonas, etc. Ils ont levé un défi d'interpréter ce dernier, je crois c'est en avril 2019, et ils dédient tout un album avec comme titre éponyme ces gens-là pour marquer les 40 ans de la mort ou bien de la disparition de Jacques Brel. Et maintenant, nous allons auditionner comme troisième musique Les prolétaires de Gilles Servat.
Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec 10 hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde, avant il en fallait 30, c'était pas rentable. On voit la 20 au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à la 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 l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-la-la-la. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantes, à Rennes ou à Brest, du travail il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux,
Alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, ralalalalère. Même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers.
C'était Madame, Messieurs, Gilles Servat, un chanteur français qui, lui aussi, dans sa musique, défend la situation des prolétaires, qui lui aussi dans sa musique défend la cause de ces gens, de ces femmes, de ces hommes qui restent jusqu'à présent inchangés. Et maintenant, comme quatrième et dernière musique de la playlist que je vous ai promise, il y aura Prolétariat de Brave. Bonne audition.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Aucun de vous ne pourra dire le contraire. Notre histoire est dans le mur. Je ne serai rien sans le secours populaire. C'est sûr, à terre comme d'habitude. Venu végère l'amertume des prolétaires exclus. Ici l'espoir s'appelle PMU. Issu des pauvres, ma rancœur est légitime. Je suis ce bourgeois, ce que les noirs sont au skin. Aussi sincère que les paroles d'un alcoolique. J'ai évacué mon fardeau en remplissant des verres. Oublie l'amour, y'a pas de serrure à cette porte. L'argent ne fait pas le bonheur de porc. Les clodos seraient folles. Comme le pouvoir d'achat, ma race en chute libre. Si la faim fait des déterminés, je chante encore le ventre vide. De force, ils maintiennent nos têtes sous l'eau. Leurs poches déportent en sang, visent les minima sociaux. Prolonge, bien sûr, nos portes sont closes. Les restaurants du cœur sont le paradis des pauvres. De la frange, j'en suis la face cachée. Résidents entassés dans d'immenses têtes. Sans argent, leurs familles noyées dans les dettes. Constamment ignorés, même si on mendie de l'aide. Jusqu'ils appellent un déchet à qui on lance des miettes. Inexistants, méprisés, blancs, arabes ou nègres. Évidemment, le décès, c'est ce qu'ils nous souhaitent. Ils devraient s'en inquiéter. Prolétaires, marche ou crève.
Prolétariat,
dérapé sous somme.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent.
Prolétariat,
des braves, des bonhommes.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
brisé par le reste du monde, on m'a appris à se relever seul.
Bêtement, ce monde est trop inquiétant. Les richesses dans les caisses de la France, c'est l'argent des ouvriers dans le surendettement. Je suis un prolétaire avec le sens de l'acharnement.
Aussi vrai que mes semblables puent le désespoir. Chez nous la réussite c'est d'être smicard. Si l'argent nous fuit, lui c'est lui, il n'est jamais en retard. La misère c'est le fric des politiciens. Tricard, car français de souche brûlée. Mise à l'écart, chien de la caste. De la caste des ouvriers. Mon quotidien en carence. Je viens du Havre, même la mer fait la manche. Prolétariat, pour ôter rien. Pour l'étariat, l'élite elle est pas point. Aussi déconseillé que des chiens publics. I'm prolétaire, donc panique.
Prolétariat,
des rats, des sous-hommes.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat de Brave, qui est à la fois un rappeur et chanteur français. Maintenant, pour clore la rubrique Évasion, je vais vous laisser auditionner L'effort humain, un texte de Jacques Prévert, mais qui vous sera présenté avec l'adaptation musicale de Serge Wegeni.
L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant, grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail. Et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait entier. Le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied. Le grand portrait doré. Le grand portrait du grand divinateur. Le grand portrait du grand empereur. Le grand portrait du grand penseur. Du grand sauteur. Du grand moralisateur. Du digne triste farceur. La tête du grand emmerdeur. La tête de l'agressif pacificateur. La tête policière du grand libérateur. La tête d'Adolf Hitler. La tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
C'était l'effort humain interprété ou adapté par Serge Wigiani. Donc, c'est la fin de la rubrique Évasion. C'est aussi la fin de ce deuxième numéro de l'émission Mille Bulles. Des bulles, nous en avons en abondance. Alors, à bientôt pour un prochain numéro.